BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumaud.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles. Tous les jours, de 10h à midi, à la radio, à la télé, sur le web. Et puis bien sûr, on salue ceux et celles qui nous écoutent depuis l'étranger en podcast. Le programme de l'heure à venir. Vous voulez investir dans l'immobilier, mais vous avez peur des galères locative. Vous voulez vendre, mais en même temps, vous voulez rester propriétaire. Et si vous étiez votre propre locataire ou votre propre acheteur, c'est possible. C'est Stéphane Descartier, dirigeant de SD Conseil et Formation, qui va vous expliquer tout cela. C'est très courant, mais il faut respecter quelques règles. Ce sera dans l'immobilier d'ici 10 grosses minutes. Le question du jour porte sur le PEA. Christian Fontaine du Revenu nous expliquera qu'il permet évidemment aux ménages, à vous, de constituer une épargne boursière en franchise d'impôts. Et on répondra aussi à la question de Mathieu qui nous suit et qu'on salue, qui veut des conseils pour investir dans l'intelligence artificielle via son PEA. Ce sera dans 25 minutes. Et puis aujourd'hui, on investira dans les meme coins. Vous savez, ces jetons qui, en parallèle des crypto-monnaies, eh bien, bénéficient de l'excitation récente au sein du marché crypto. C'est Enzo Allo qui sera avec nous pour faire le point en fin d'émission. Au programme, il y a vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre ce matin et à m'écrire sur LinkedIn. On vous salue. Vous continuez à réagir et à participer à l'émission. Vos questions qu'on peut traiter, eh bien, on les met dans le direct. Les autres, elles viennent alimenter la pompe à questions. Ça se passe sur LinkedIn en message privé Lorraine Goumaud ou bien aussi en message à l'adresse directe @bfmbusiness.fr. Il est l'heure de passer une tête à Euronext où nous rejoignons Antoine Larigauderie. Antoine, le CAC qui est légèrement vert depuis qu'on s'est parlé il y a une heure.
Oui, ça bouge pas trop, mais c'est vrai qu'on a une petite pointe haussière hein, depuis ces dernières minutes. Plus 0,22% pour l'indice parisien qui est à 8168 points. Une tendance qui reste globalement indécise, hein, mais ça, on a le droit depuis le début de la semaine à ce sentiment, hein, ces hésitations de marché. Ça risque de perdurer, hein, vu le long week-end de Pâques qui nous attend. Plus 0,45%, le DAX à Francfort un petit peu plus décidé, hein, tout comme l'Eurostock 50 qui gagne 0,33%. À noter toujours une très belle hausse de BNP Paribas qui est soutenue par une recommandation à l'achat de Goldman Sachs. Le titre gagne 2,13% à 63,82€. Derrière, on a Kering qui fait un petit peu le yo-yo depuis ce matin. Le titre était en baisse marquée à un moment et là, il reprend vraiment du poil de la bête. Hein, plus 1,4% à 358,65€. Et puis à noter des valeurs industrielles qui sont aussi aux avant-postes. Sanofi plus 0,8 à 90,36€. Safran plus 0,8 209,75€. Ou encore Renault plus 0,8% 45,97€. À la baisse, vous avez entendu Stéphanie, ajustement de participation d'une des familles actionnaires de Carrefour. Hein, ça provoque des ajustements techniques. Le titre perd 2,9% à 15,53. Notez Stellantis, moins 0,98 à 26,90. Ou ArcelorMittal, moins 0,69, 25,03. Plus forte baisse du SBF 120, c'est Orpea, moins 7,5%, 11 euros. On a Atos aussi, après parution de ses résultats. Évidemment, le titre en difficulté. Mais enfin, la sanction est un peu plus modérée que ce à quoi on a droit d'habitude. Moins 7,3%. On est à 1,59 €. Puis à noter la forte hausse de Ruby. Plus 5,6%, 29,68, alors que Bolloré a passé le cap des 5% du capital et grignote un petit peu de participation. Le CAC 40 plus 0,21, 8168 points et l'euro 1,0858, Lorraine.
Voilà, le CAC tranquille sur sa ligne de flottaison en attendant peut-être une meilleure tendance. Vous nous emmenez à Londres, Antoine, c'est l'heure de votre histoire.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Et Londres qui se met aux produits financiers indexés sur le Bitcoin, racontez-nous.
Ben oui, disons que du côté américain, on privilégie les ETF, vous savez, les Exchange Traded Funds, des fonds cotés indexés sur le Bitcoin. Et là, à Londres, ce sont des ETN, des produits un petit peu similaires, sauf qu'on ne détient pas un actif cette fois, mais une forme d'obligation. ETN, c'est Exchange Traded Note, et pas fund, pas une part d'actif. Tout ça va être lancé dès le mois de mai. Et les émetteurs, en fait, ont jusqu'au 15 avril pour proposer leurs produits financiers et les soumettre aux autorités financières de Londres. On a déjà quelques établissements réputés qui se sont déclarés, notamment Van Eck, 21 Shares, Coin Shares et Wisdom Tree. Mais déjà, Première restriction d'importance, il n'y aura pas d'accès à ce marché pour l'investisseur particulier. Ces produits ne seront tradés, échangés que par des investisseurs professionnels et institutionnels. Dommage pour les boursicoteurs. Ensuite, hormis quelques spécificités techniques, franchement, ces produits ressemblent quand même beaucoup à certains du même genre déjà échangeables sans problème sur Euronext ou Deutsche Börse. Souvent, on a les mêmes intervenants en plus, puisque Van Eck, par exemple, a été l'un des premiers à sortir, à trader des produits indexés sur le Bitcoin en Europe. Donc on se dit, où est le truc, où est la nouveauté? Et finalement, on se rend compte que Londres, en fait, ne fait rien de nouveau. Ils veulent accroître au maximum leur surface d'investissement pour leurs grosses banques et les gros fonds britanniques sur ces nouveaux supports. Ça fait partie de son initiative gouvernementale pro-crypto, qui veut faire de plus en plus de place à la crypto, à la bourse de Londres. D'un point de vue stratégique, c'est intéressant, alors que les affaires vont plutôt mal côté bourse. Maintenant, il va falloir déployer quand même des trésors de marketing pour déloger les acteurs qui sont déjà présents sur les autres plateformes européennes et décourager les investisseurs particuliers d'aller regarder du côté des ETF américains. Donc, chantier en cours, work in progress, mais encore un support qui devrait logiquement, mathématiquement soutenir quand même les cours du Bitcoin.
Voilà, Londres qui veut sa part du gâteau Bitcoin sans en refiler cette part aux Américains. Merci Antoine pour cette histoire financière à retrouver en podcast sur le site et l'application BFM Business d'ici quelques minutes. C'est bientôt l'heure de parler immobilier. On va parler de vous qui voulez investir mais qui ne voulez pas de galère locative. Vous qui voulez vendre mais qui en même temps voulez rester propriétaire. On va résoudre ces dilemmes, ces équations avec Stéphane Descartiers et Marie Cœur de Roy. À tout de suite.
Tout pour investir, la place de l'IMO.
Et si vous étiez votre propre locataire, Marie ? Est-ce que ça serait pas votre rêve ?
Ah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Ça va être l'objet de cet édito de Stéphane Descartiers que nous accueillons. Bonjour Stéphane.
Bonjour Lorraine, bonjour Marie, bonjour à tous.
Dirigeant de SD Conseil et Formation. Et si vous étiez votre propre locataire, voire votre propre propriétaire, racontez-nous, c'est votre édito.
Oui, c'est de l'autosatisfaction immobilière en quelque sorte. C'est la possibilité, parce que si vous voulez investir, mais en même temps vous avez peur un peu des aléas locatifs, ou vous voulez vendre, mais pas trop, vous voudrez bien vendre et toucher le fruit de la vente tout en restant propriétaire, il y a des solutions. Il y a des solutions, alors notamment comment être son propre locataire. Ça c'est un montage qui est très courant, c'est pas quelque chose effectivement qu'on va découvrir. Beaucoup de chefs d'entreprise le pratiquent, des dizaines de milliers de chefs d'entreprise le pratiquent.
Des médecins, des avocats par exemple.
Les médecins, les avocats, tous les experts comptables qu'on peut rencontrer, en tout cas que je connaisse, sont propriétaires de leurs locaux et louent à leur activité. Donc le principe est le suivant, vous êtes chef d'entreprise, votre activité marche bien, vous payez vos charges, vous payez bien sûr un loyer, mais vous payez un loyer un tiers. Et à un moment donné, vous dites, pourquoi pas devenir propriétaire de mes bureaux, de ma boutique, de mes locaux. Donc, pour ce faire, alors il y a deux solutions. Soit c'est l'entreprise qui achète, mais encore mieux, vous pouvez acheter à titre personnel, soit en direct ou soit au travers d'une SCI avec vos associés ou éventuellement votre famille. Vous achetez les locaux qui vous correspondent bien et vous les louez ensuite à votre entreprise. Donc ça comporte quand même pas mal d'avantages parce que le locataire, vous le connaissez, il est plutôt sympa. Il va pas être trop... Alors attention, il faut que le loyer soit dans le marché, etc. Bien sûr. Mais l'intérêt des locaux commerciaux, c'est qu'on a quand même des rendements qui sont supérieurs au logement, par exemple. Les locaux commerciaux, on arrive sans trop de problèmes à trouver du 6-7%.
Donc, je vais vous interrompre quand même, parce qu'on va parler à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui se posent la question de l'intérêt de la chose.
Oui.
Vous nous avez parlé du fait qu'on connaît le locataire. Ok, ça, on a bien compris le système. Mais on imagine qu'au-delà de ça, moi, je réfléchis bêtement. Je me dis, en même temps, je vais payer le bien immobilier.
Oui.
Je vais rembourser un crédit éventuel derrière. En tout cas, je vais payer le bien immobilier au démarrage. Plus, je suis la même personne qui va devoir verser un loyer pour m'auto-rembourser. Quel est l'intérêt pour moi ?
L'intérêt, c'est plutôt que de payer des loyers à un tiers et à fond perdu, entre guillemets, c'est de capitaliser en tant que personne physique ou au travers d'une SCI et de se verser, que l'activité vous verse des loyers et de cette façon, vous constituez un patrimoine personnel sans aucun problème. Il faut que le loyer soit dans le marché et c'est ce que je disais tout à l'heure. L'intérêt des activités commerciales, c'est que les rendements sont plus élevés que sur le logement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prime de risque. Notamment parce que les locaux commerciaux, vous avez plus de vacances, vous avez des risques d'impayés, il n'y a pas d'assurance loyer impayé pour les locaux commerciaux, etc. Mais là, le risque, en fin de compte, comme c'est vous-même le locataire, bon, bah, il est effectivement un peu plus
contenu. Mais je redis, Stéphane, quel est l'intérêt purement financier de l'opération ?
L'intérêt, c'est qu'au bout de 20 ans que votre crédit est terminé, vous êtes propriétaire d'un bureau ou d'une boutique qui a été payé grâce à votre activité. Alors que si vous restez locataire, au bout de 20 ans, bah, vous n'êtes pas propriétaire de vos murs, effectivement, de boutique et de bureau.
Oui, mais là, vous partez du principe. Moi, je me place du côté de celui qui achète. C'est-à-dire que moi, je pourrais acheter et le louer à un tiers sans avoir moi-même à me verser mes propres loyers.
Bien sûr, mais l'avantage de l'auto suffisance effectivement de cette sorte, c'est qu'effectivement vous maîtrisez un peu plus le risque puisque vous êtes votre propre locataire. Et donc voilà, donc ça permet effectivement de maîtriser l'aspect risque, l'aspect carence locative, l'aspect impayé, etc. Alors il faut que votre activité bien sûr fonctionne. Hein, sinon, bien sûr, ça n'a pas d'intérêt. Mais lorsque votre activité est bien lancée, etc., bah, c'est la raison pour laquelle des dizaines de milliers de chefs d'entreprise pratiquent ça.
Mais on imagine que fiscalement, il y a des intérêts aussi, quand même, non ?
Oui, alors bah, il y a des intérêts classiques. Vous avez même un intérêt, parce que comme, notamment si vous êtes concerné par l'IFI,
voilà.
comme c'est votre outil considéré comme votre outil professionnel, y compris si vous êtes propriétaire à titre personnel et que vous louez à votre activité, comme c'est considéré comme outil de travail, eh bien, ça sort de l'IFI. Vous n'avez même pas, si vous êtes
redevable
de l'IFI.
Donc, il y a quand même un intérêt à se faire du bien soi-même.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Mais notamment,
mais il faut quand même le dire, parce que c'est vrai que sur le papier, on pourrait se dire...
Bien sûr.
Bon, ok, oui, on a compris le principe du risque avec un locataire tiers, mais... Pourquoi véritablement?
Notamment une astuce, alors notamment pour les dizaines de milliers de CGP qui nous écoutent, qui travaillent chez eux, parce qu'ils ont une activité, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir de grands bureaux, etc. Mmh. Ils travaillent chez eux. Bon, travailler chez soi, on connaît, c'est pas toujours simple. Notamment quand vous faites des visios.
Avec les enfants derrière.
Vous avez les enfants qui hurlent,
le chat
qui saute sur le clavier, le conjoint ou la conjointe qui passe en petite tenue derrière. Bon, on a tous connu ça.
Non.
Bref, moi j'ai vu déjà, donc bon, c'est des côtés sympas, mais enfin bon, bref. Donc bon, ça peut être quand même des fois un peu compliqué. Donc en tant que CGP, vous achetez un petit studio, une chambre de bonne, etc., pour par exemple même à Paris 100 000 euros. Vous empruntez la totalité, vous remboursez 600 et quelques euros. Vous louez à votre activité un bureau cosy, etc., 600 euros, vous autofinancez, et vous avez votre petit bureau cosy, vous pouvez travailler tranquille, personne vient effectivement vous embêter, etc. Donc, voilà,
et vous
autofinancez votre petit studio, votre chambre de bonne, avec votre activité.
Stéphane, vous parlez de chambre de bonne, et en ce moment, c'est un peu des prix à la casse, notamment à Paris et à Lyon, vous avez identifié
avec
ça.
Avec les plafonds de loyer, notamment. Mais là, vous n'êtes pas concerné par les plafonds de loyer, parce que vous ne louez pas un logement. Hein, vous louez une surface de bureau,
15 000 euros la chambre de bonne,
etc., machin. Mais il y a des prix fracassés, effectivement. Alors, encore plus fracassés, si vous avez besoin d'un petit bureau, vous pouvez viser les 8,90 m.
Oui, parce que c'est pas louable.
Ceux qui sont en dessous de 9 m², parce qu'alors là, les prix sont carrément fracassés.
Oui, alors il faut bien mettre l'angle de la caméra si vous faites des visites avec vos clients pour pas avoir l'air d'être dans un placard.
Oui, tout à fait.
Bon, alors ça, vous nous dites, c'est quand même intéressant avec les taux actuels.
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que même si vous faites du 6 ou 7%, même en empruntant à 4%, bon, bah, ça tourne. Hein. Bon. Vous autofinancez avec un risque qui est quand même mesuré.
Bon, alors je reste propriétaire. Je suis propriétaire et je suis aussi locataire de moi-même.
Oui, tout à fait.
Mais je peux aussi être l'acquéreur de moi-même.
Alors ça...
Ça devient compliqué votre histoire quand même, Stéphane, on va pas se mentir.
Mais non, c'est pas si compliqué que ça. Alors... Maintenant, on arrive à la vente à soi-même. Ça aussi, alors les anglo-saxons appellent ça l'OBO, Owner Buyout. Donc ça, le principe, c'est de refinancer un bien, c'est de racheter un bien, notamment avec ses enfants, dans une logique de transmission. Alors je vous dis tout de suite, les cas les plus fréquents, c'est que vous êtes, par exemple, propriétaire d'un bien, vous n'avez plus de crédit, donc vous êtes massacré par les impôts. Mmh. Hein, globalement, quand vous continuez à louer, etc., l'histoire, on connaît l'histoire. Donc, votre tranche marginale, plus les prélèvements sociaux, vous êtes massacré par les impôts. Donc, vous posez la question de vendre. Mais en même temps, ça peut être un bien auquel vous êtes attaché, que vous voulez conserver dans la famille, etc. Puis, vous avez peut-être envie de transmettre, aussi, par exemple, à vos enfants. Donc là, les montages fréquents, c'est de monter une SCI avec vos enfants. Alors, pour que ce soit clean, il vaut mieux être minoritaire. Mieux, par exemple, que les parents soient à 49%, c'est quand même plus clean. Vos enfants, donc, possèdent le reste de la SCI. Cette SCI vous rachète votre bien.
Oui.
Et va ensuite, bah, louer ce bien, etc., machin. Mais l'avantage pour le propriétaire, c'est que vous touchez l'argent, quand même. ou toucher les 300 000 et 400 000 ou plus du bien.
En restant proprio.
En restant propriétaire, minoritaire, mais quand même en restant propriétaire. Et en tout cas, vos enfants sont dans le reste de la SCI.
Enfin, donc, j'ai tout, je me suis versé l'argent à moi-même.
Vous touchez le bien que vous pouvez réinvestir ailleurs ou rembourser votre résidence principale si vous avez encore du crédit ou que sais-je, ou vous achetez une résidence secondaire ou que sais-je. Donc, vous restez propriétaire, vous touchez l'argent, vous restez propriétaire, donc c'est un peu le beurre, l'argent du beurre,
etc. Ça veut dire que mes enfants m'ont donné de l'argent, c'est bien ça le sujet.
Ben non, parce qu'ils vont, enfin non, oui et non, puisque en fin de compte,
petits vos enfants, Marie-Claire.
Non, là, je ne peux pas leur faire le coup.
L'intérêt, c'est que la SCI où vous êtes avec vos enfants emprunte la totalité si possible.
Voilà.
Ce qui fait que vous repartez avec des intérêts d'emprunt à déduire de vos loyers, etc. Donc fiscalement aussi, c'est intéressant.
Alors attention, tout ce dont on parle est tout à fait légal, etc.
Absolument.
Il y a quand même points d'attention principaux.
Oui.
Notamment, il faut une vraie justification patrimoniale. Exemple.
Oui, tout à fait. Vous ne pouvez pas, vous êtes propriétaire d'un bien, vous montez une SCI avec votre beau-frère, vous avez 90%, vous montez une SCI, vous rachetez le bien pour repartir avec des intérêts d'emprunt plein pot, vous vous faites retoquer.
Ah bon, pourquoi?
C'est la notion. Par l'administration fiscale, puisque c'est depuis la doctrine...
Dénoncé par votre haute beau-frère.
Depuis la doctrine que vous connaissez sur le mini-abus de droit, on n'a pas le droit de faire des montages à but uniquement fiscaux.
Bah ouais, mais donc, là, en l'occurrence...
Non, parce que là, il y a une logique avec vos enfants, etc. Si vous êtes minoritaire par la suite, il y a une logique patrimoniale, il y a une logique de transmission.
La logique de transmission, je pourrais leur en faire don avec la fiscalité qui va avec.
Bien sûr. Bien sûr.
Donc,
bien sûr.
Voilà la logique patrimoniale.
Oui, mais
non,
bon,
je sais pas. Hein,
Non, mais c'est. Enfin, ça, encore une fois, ce sont des montages qui sont fréquents.
Oui, non, mais d'accord, mais il y a quand même un peu d'hypocrisie.
Robespierre est
mais
de
non,
retour.
Pas du tout. Mais
Marie a mis sa tenue.
C'est pas vrai, mais il y a quand même un peu d'hypocrisie. C'est, reconnaissons qu'il s'agit là d'un dispositif avant tout fiscal.
Non, et patrimonial, que donc... Marie. Aussi patrimonial, surtout patrimonial, Marie.
Ah, bah, patrimonial, il y aurait pu y avoir don, mais forcément, la fiscalité au-delà de 100 000 euros, elle est prohibitive. Donc, on crée ce type.
Par parent.
Là, c'était une logique patrimoniale et non fiscale. Là, on est plutôt sur une logique.
Ah, écoutez, les montants, enfin, la fiscalité française est quand même ce qu'elle est. Elle est quand même lourde.
Je n'ai pas dit qu'elle ne l'était pas. Hein. J'ai juste dit qu'il y avait une forme d'hypocrisie.
Mais effectivement, il y a deux, trois encore petits montages sur lesquels on peut aller, où on peut faire des choses intéressantes et légales. Mais effectivement, attention. C'est réglementé, il faut être bien accompagné, il faut tenir une vraie comptabilité sur la SCI.
Alors aussi, ça c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire une vraie comptabilité?
C'est-à-dire qu'il faut faire notamment les assemblées générales tous les ans.
Avec soi-même?
Ce que ne font... non, avec ses enfants. C'est ça.
Oui, mais bon... Hein.
Ce que ne font quasiment jamais les SCI entre nous. Hein.
Attention.
Alors, à Noël. On monte la SCI, puis les assemblées générales, voilà. Donc, il faut être, encore une fois, plutôt minoritaire. Il faut qu'il y ait une logique de transmission. Il faut tenir une vraie comptabilité des assemblées générales, etc., de la SCI, publier ses comptes, etc. Il faut que ce soit clean.
C'est vérifié, ça, ou pas, Stéphane?
Ah oui, mais ça, sont des montages très fréquents. Hein.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'administration fiscale vérifie.
Oui.
Et parce qu'on dénoncé, parce que l'administration fiscale monitore les.
Non, c'est dans le. Non, mais c'est. Enfin, après, c'est effectivement dans le cadre des contrôles aléatoires, hein, y compris. Hein.
Ouais.
Voilà, vous avez. Puis bon, dès qu'il y a une vente, etc., on peut regarder qui achète, pourquoi, etc. Donc ça passe par les hypothèques, les services de l'État. Donc ils peuvent se demander, tiens, pourquoi est-ce que ce bien qui n'avait plus d'intérêt d'emprunt se retrouve à nouveau avec des intérêts d'emprunt à déduire, etc. Donc vous pouvez attirer l'attention. Donc il faut que le montage soit effectivement clean et soit bien fait.
En parlant d'orthodoxie, Marie, puisque Marie est habillée en blanc et noir, comme un peu une mormone. Payer le juste prix du bien.
Oui.
Comment on l'estime, ce juste prix?
Oui, il faut un juste prix du bien. Il faut pas que l'État soit lésé par un manque, par exemple, sur les frais de mutation. Hein, par exemple, si vous voulez avantager vos enfants, un bien qui vaut 500 000, si vous le vendez 300 000, vous vous faites aligner.
Assez évident quand même.
Bah, tout à fait. Donc ça, vous faites une estimation, demandez à un agent immobilier une estimation, vous faites une estimation avec les outils d'estimation qui sont à peu près fiables. Donc il faut payer le vrai prix. Hein, faut pas qu'il y ait un prix dissimulé pour avantager notamment vos héritiers, etc. Il faut que ce soit le vrai prix. Et surtout, attention, hein, quand vous faites une vente qu'on appelle une vente à vil prix, quand vous vendez très nettement en dessous du prix, vous avez toujours le risque, et ça, faut faire très attention, de la préemption de la ville. Parce que vous voulez faire un cadeau, par exemple, à vos enfants en disant, bon, ce qui vaut 500, je le vends 300.
Oui.
Mais ça passe, vous avez, pour chaque vente, vous avez une déclaration d'intention d'aliéner. C'est-à-dire, ça passe par la service de la mairie. Et si vous êtes à Paris, Madame Hidalgo, elle va se dire, tiens, ce bel appartement à 500 000, il se vend 300 000, je prends.
Moi, j'ai l'intention de vendre très cher à mes enfants.
Donc, il faut...
C'est quoi l'inverse? Est-ce que ça aussi, c'est checké?
Donc, il faut faire attention. Il faut vendre au prix. Mais de la même façon, pour se louer à soi-même des bureaux, etc., il faut louer au prix. Il ne faut pas louer ni en dessous, parce que ce serait favoriser votre entreprise, etc., ni au-dessus, oui. Parce que là, ce serait vous favoriser en donnant un loyer bien au-dessus du marché, etc. Donc là aussi, il peut y avoir des risques. Il faut louer au prix, il faut vendre au prix, et que le montage soit clean, bien fait, monté par des pros. Et là... Bah, a priori, enfin moi j'ai pas vu effectivement de quand le montage était bien fait, j'ai pas vu de gens qui se faisaient retoquer, contrôler oui. Mais retoquer, non.
Non, mais c'est ça le sujet en réalité de tout ce que vous nous dites, Stéphane. C'est que ce genre de montage, de toute façon, il faut être très accompagné quand même.
Oui, c'est sûr. On fait pas ça comme ça, sur un coin de table, sur une bonne idée, en écoutant des quartiers sur BFM Business, en disant tiens, je vais me racheter mon bien, etc. Non, il faut être accompagné, c'est sûr.
Commerciaux, bureaux et on l'entend, même logement.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait.
C'était une piste. Si vous étiez votre propre locataire et si vous étiez votre propre acheteur, Marie, Thierry Robespierre, le mot de la fin.
Bah moi je pourrais jamais acheter, donc je resterai locataire d'un propriétaire.
Ça, on va faire une émission SOS,
oui. Une cagnotte
Pitchy. Spéciale, voilà, c'est ça.
Merci Stéphane pour ce regard, cette idée alternative, et néanmoins très courante. Vous êtes profession libérale, c'est ce que vous avez mis en place, vous voulez nous raconter pourquoi vous avez fait ça et que ça marche bien ou que ça marche moyennement. Vous pouvez nous écrire l'adresse, c'est direct@bfmbusiness.fr. Des messages, nous en avons reçu quelques-uns concernant le PEA. Notamment Michel qui nous écrit sur la possibilité d'une flat tax sur le PEA. Ou encore Guy qui nous demande des précisions. Nous allons vous répondre avec Christian Fontaine qui se prépare pour rentrer en studio dans quelques minutes pour réfléchir à pourquoi le PEA est aussi attrayant et puis surtout, comment peut-on investir dans l'IA avec son PEA. On va répondre à Mathieu. C'est tout de suite après une petite pub.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir et utiliser au mieux votre plan épargne action, le fameux PEA qui est si attrayant, en tout cas qui vous inspire beaucoup de questions. Et pour y répondre partiellement, au moins Christian Fontaine est de nouveau avec nous. Bonjour cher Christian.
Bonjour à toutes
Rebonjour.
Et à tous.
Vous êtes déjà avec nous pour la partie actu. Vous êtes le directeur délégué de la rédaction du Revenu. Bon, faut-il encore présenter ce PEA ? Qui nous permet à nous, individus et puis ménages, de fabriquer notre petite épargne boursière.
Ah, il faut, oui, bien sûr, il faut en reparler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la bourse progresse depuis le début de l'année, fortement, 6-7% de hausse pour le CAC 40 et pour bien plus pour un certain nombre d'investisseurs et d'investisseuses actifs. Et c'est vrai que dans ces périodes-là, on a tendance à se focusser, si vous me permettez l'expression, sur le choix des valeurs, ce qui peut tout à fait être compréhensible. Et donc, il y a deux sujets qui me sont chers, qu'on aborde rarement. Le premier, c'est les frais. Je vous remercie de ne pas relevé. Et le deuxième, c'est la fiscalité, les impôts. Donc, à quoi ça sert, je dirais, de gagner de l'argent en bourse si c'est pour que l'essentiel des gains tombe dans les poches de l'administration fiscale, même si quelque part, ça nous revient aussi sous forme de services publics. Mais il n'empêche que c'est quand même intéressant d'optimiser ces impôts. Et vous le savez, vous le répétez souvent sur votre antenne et Revenu aussi, c'est que en France, la fiscalité est quand même très élevée. Et donc, le conseil, c'est que pour se construire une petite épargne boursière, mais il faut investir via le plan d'épargne en action. Vous avez raison.
En franchise d'impôts, donc. Alors, on a pas mal de questions d'auditeurs, mais on va faire un petit peu de pédagogie quand même. D'abord, le PEA, ça n'est pas non plus le placement parfait.
Non, alors bien sûr, c'est pas le placement parfait, c'est quand même un placement qui permet de ne payer que 17,2% de prélèvements sociaux sur ses gains. Donc ça, c'est quand même pas mal, plus que pas mal. Surtout, l'avantage du PEA, c'est que vous pouvez multiplier les opérations en bourse, les achats vendus, vous pouvez les encaissements de dividendes autant que vous voulez. Vous ne payez pas, vous ne passez pas par la case impôt ou prélèvements sociaux à chaque fois que vous réalisez une opération. C'est uniquement lorsque vous voulez retirer votre argent de cette enveloppe fiscale pour en profiter. Et ça, c'est absolument essentiel. Lorsque vous gérez votre argent sur un compte titre ordinaire, vous vendez un titre, gling, 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 en gain, vous passez par la case impôt. Dans le cadre du PEA, uniquement, donc vous choisissez le moment où vous êtes imposé.
C'est-à-dire que cet argent, ces liquidités, elles restent dans la poche du PEA. C'est ça que vous voulez nous dire.
Voilà, tout à fait.
Excellente transition vers la question de Mathieu, qui nous a écrit hier. Il possède un PEA depuis bientôt 5 ans. Il a justement des liquidités dans cette petite poche liquidité de son PEA. Et il souhaite miser, il souhaite investir sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez quelques conseils à lui apporter, cher Christian ?
Alors, lorsqu'on pense intelligence artificielle, on pense forcément action européenne. Alors là, vous le savez, le plan d'épargne en action, bah, vous avez un avantage fiscal. Et en contrepartie, en fait, vous ne pouvez investir que dans des titres de sociétés qui ont leur siège dans l'un des 27 pays de l'Union européenne, plus le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande. Donc on était un peu loin des États-Unis. Donc si vous voulez investir en direct dans Nvidia via votre PEA, ce n'est pas possible. Mais il est possible d'investir en actions européennes via des fonds d'investissement. Alors quelle est la magie entre guillemets ? Eh ben c'est très simple, c'est que ce sont des fonds qui respectent les critères d'éligibilité au PEA, donc ils sont bien investis à hauteur de 75% minimum, donc alors en actions par exemple du CAC 40. Et ensuite la performance du portefeuille est échangée contre la performance d'un indice américain, par exemple le Standard & Poor's 500, qui vous savez est exposé à hauteur de 30% en valeur de la tech, donc notamment en valeur de l'intelligence artificielle. Donc, la solution pour votre auditeur, très simple en fait, et sans doute aussi sur le plan tactique, sur le plan conjoncturel, la solution la plus habile, puisque quand même les valeurs de l'intelligence artificielle sont très chères, ça consiste à diluer un tout petit peu le risque en investissant sur un fonds tech. Donc là, il y a deux options, soit investir via un ETF PEA qui réplique la performance de l'indice Nasdaq. Il existe ce type de produit chez Lyxor, et puis vous avez aussi chez Amundi, Lyxor et BNP des ETF qui sont éligibles au PEA et qui répliquent l'indice Standard & Poor's 500. Personnellement, dans la conjoncture actuelle, compte tenu des niveaux des marchés, je préférerais investir sur un ETF qui réplique donc alors le Standard & Poor's 500. Donc comme ça, votre auditeur sera exposé à la thématique de l'intelligence artificielle, mais pas que.
Voilà, ces ETF qui permettent d'investir sur le S&P 500. On a pas mal de questions d'auditeurs très d'actualité, notamment celle de Michel, un de nos Michel G, qu'on salue. Il nous écrit, il a écouté l'émission depuis le début, avec l'augmentation du déficit public, n'y a-t-il pas un risque de voir la flat tax arriver sur le PEA ?
Alors, j'y crois pas. Mais ça ne veut pas dire forcément que l'ensemble des prélèvements sur le PEA ne va pas augmenter. En fait, la flat tax, donc c'est l'impôt qu'on est le PFU, en fait le prélèvement forfaitaire unique à 30% auquel sont soumis peu ou prou tous les revenus donc leur et plus-value de vos placements, sauf au sein de l'enveloppe PEA. Non, par contre, ce qui peut se passer au sein de l'enveloppe PEA, on en parle peu en ce moment, c'est les prélèvements sociaux, les fameux 17,2% au sein du PEA. Ça pèse lourd et ça, rien ne garantit que ce taux, hein, vous savez, historiquement, c'était la fameuse CSG, donc on l'a créée au début des années 90 de mémoire, ça devait être 0,5 ou 1% et puis le taux n'a pas cessé d'augmenter. Aujourd'hui, donc, ces prélèvements sociaux, c'est l'addition de différents prélèvements. Ce taux de 17,2 pourrait éventuellement augmenter. Il n'empêche que même s'il augmentait, il n'y a eu aucune information dans ce sens. Ouais. C'est purement de la conjoncture. Le gouvernement reste sur sa politique, donc alors de ne pas augmenter les impôts. Ce qui ne veut pas dire que certaines niches fiscales ne vont pas disparaître. Donc alors, ce qui ne veut pas dire que certains avantages fiscaux vont être reniés. Dans le cadre du PEA, on est vraiment au cœur de la machine. La volonté, donc alors, d'Emmanuel Macron de booster, donc alors, l'investissement dans l'épargne productive en bourse. Donc ça serait quand même très étonnant que la fiscalité sur tous les placements qui avaient été allégés au 1er janvier 2018, puisque avant, en fin de compte, les revenus du capital étaient taxés comme le travail, et depuis le 1er janvier 2018, ils sont taxés au taux de la flat tax. Donc ça serait revenir quand même sur une réforme fiscale majeure donc du premier quinquennat Macron. Donc j'y crois pas trop, mais éventuellement toujours une hausse des prélèvements sociaux possible, notamment pour le PEA.
Voilà, loin de nous de colporter des rumeurs. C'est une question d'auditeur à laquelle on répond. Voilà, pour l'instant, ça n'est pas au programme. Bon, il y a quand même quelques conseils que vous pouvez donner, fort de votre casquette du revenu, pour ceux et celles qui ont déjà un PEA.
Alors, pour ceux et celles qui ont déjà un PEA, en fait, c'est de mondialiser le PEA. Vous savez, le revenu, on va souvent chez les abonnés, chez les lecteurs, et on met à plat un peu l'ensemble de leur situation patrimoniale, et on regarde notamment ligne par ligne leur PEA. Et que constate-t-on ? C'est qu'il est très souvent franco-français. Ça, c'est pas, un biais national. C'est pour les Anglais sont majoritairement investis dans des titres britanniques, les Allemands dans les titres allemands, les Américains dans les titres américains. Ce qui est une certaine logique. On investit dans ce qu'on connaît parce qu'on pense que ce qu'on connaît va davantage progresser. Malheureux que ce qui est coté à l'étranger. Voilà. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et depuis une dizaine d'années, ça vous a pas échappé. Effectivement, les actions américaines donc, affichent des performances bien supérieures aux actions françaises. Donc, il s'agit pas de faire du French bashing, mais on peut donc leur aimer, donc leur soutenir nos champions nationaux tout en s'ouvrant à l'international. Et donc, le conseil pour ceux et celles qui ont un PEA, c'est de mondialiser leur PEA. Donc, en mondialiser déjà, je dirais, en investissant dans des titres donc cotés en Allemagne, à Bruxelles, en Italie, en Espagne. Et puis, pourquoi pas, donc, alors, pour les portefeuilles relativement importants, oser donc, alors, des fonds un petit peu complexes donc, qui vont échanger la performance d'un portefeuille éligible au PEA donc, alors, et investi en actions européennes contre la performance d'un indice américain. Donc, le conseil pour ceux et celles qui ont un PEA, mondialisez votre PEA.
Mondialisez-le. Une question de Guy qui nous suit et qu'on salue, qui nous évoque une situation suite à un décès. La banque du défunt me valorise les titres au jour de mon ordre de transfert. Est-ce que c'est correct? Parce que c'est vrai, souvent on pense que la valorisation, eh bien, elle s'apprécie soit au jour du décès, soit une moyenne sur 30 jours.
Alors, ça dépend en fait de quoi parle votre auditeur. En fait, pour le calcul des droits de succession, effectivement, la base imposable pour le PEA, les titres qui sont dans le PEA, ça correspond à la valeur du titre le jour du décès ou, si c'est plus intéressant pour les héritiers, à la moyenne donc, lors des cours des 30 derniers jours. Voilà, oui. Ça, il a raison
précédent
là-dessus.
Précédent le décès. Oui.
Voilà, précédent le décès. Ça, il a raison. Après ça, le transfert, je dirais, des titres, ben, il s'effectue donc, au cours des titres le jour du transfert. Attention, hein, il ne faut pas confondre la valeur des titres le jour du transfert avec la valeur des titres qui sert de base donc, pour le calcul des droits de succession. Hein. Vous pouvez très très bien payer des droits de succession sur 100 parce que les titres ils valent 100 le jour du décès et puis le jour du transfert, souvent parfois 6 mois après, les titres qui valaient 100 le jour du décès peuvent valoir 80 ou peuvent valoir 120. Et donc, en plus, même une petite subtilité fiscale à savoir, c'est que si les titres ont progresser entre le jour du décès et le jour du transfert, eh ben, les héritiers vont être amenés à payer des droits de la taxe sur la plus-value. À l'inverse, donc, alors, si les valeurs des titres le jour du transfert est inférieure à la valeur des titres le jour du décès, il peut y avoir une moins-value utilisable sur le plan fiscal. Voilà, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle sous le plan des droits de succession ou est-ce qu'on parle sur le plan du prix donc, alors, des titres le jour du transfert?
Voilà, précision pour notre auditeur. Un autre auditeur nous demande comment calculer les prélèvements fiscaux en cas de sortie partielle du PEA. On a le sentiment que c'est très opaque.
Alors, c'est pour un PEA depuis 5 ans, il n'y a pas de prélèvements fiscaux, c'est que des prélèvements sociaux. Alors oui, c'est vrai que c'est très compliqué. La question type qu'on a aussi très souvent revenu, c'est j'ai vendu un titre en perte et dans la foulée de la cession de ce titre en perte, j'effectue un retrait. Et ma banque me prélève des prélèvements sociaux. Y a-t-il une erreur de calcul? Alors la plupart du temps, il n'y a pas d'erreur de calcul. En fait, c'est parce qu'il faut bien comprendre comment sont calculés ces prélèvements sociaux. En fait, lorsque vous effectuez un retrait d'un PEA, vous retirez à la fois un tout petit peu de capital, le montant de vos versements, plus une quote-part de vos gains. Et les prélèvements sociaux ben, ne sont calculés que sur la part des gains que vous retirez. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui est exact. C'est le taux qui s'applique aux gains réalisés sur un PEA depuis le 1er janvier 2018. Sauf que ce taux de 17,2% ne s'applique pas sur le montant total de votre retrait, mais uniquement sur la part de gains. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais la bonne nouvelle à retenir, c'est qu'il en résulte donc, alors, un prélèvement inférieur au 17,2. Par contre, c'est vrai que c'est excessivement... Les modalités de taxation sont très complexes. De mémoire, ces modalités de taxation, ça tient sur 4 pages de formules mathématiques. Donc, c'est d'une complexité inouïe. Voilà. Donc, c'est très difficile de le recalculer.
Christian, un conseil pour ceux et celles qui nous écoutent, qui n'ont pas ou pas encore de PEA?
Non mais ça, je pense que vous pouvez faire le conseil à ma place. C'est bien sûr d'ouvrir un PEA. Alors, la question, on ouvre c'est la question, c'est où en fait. Hein, on n'ouvre pas un PEA dans son supermarché, on n'achète pas donc alors des titres, non, on n'investit pas dans des titres dans son supermarché. Il faut passer par l'intermédiaire d'un établissement financier. Mmh, mmh, mmh. Vous pouvez ouvrir donc votre PEA auprès donc de votre banque à réseau. Le conseil du revenu, c'est plutôt de passer par un établissement 100% en ligne. Mais pourquoi ? Parce que les toutes les voilà les frais. Vous avez raison. Les toutes les études qui ont été menées là-dessus montrent que les frais prélevés sont 2 à 3 fois inférieurs, notamment les frais de courtage. Lorsque vous achetez ou vendez un titre, vous passez par la case frais. Et l'avantage des établissements 100% en ligne, d'ailleurs souvent filiales d'un grand réseau bancaire, bah les frais de courtage sont limités à 0,1, 0,15, 0,20% sur chaque opération d'achat et de vente. Donc, ouvrir un PEA auprès d'une banque 100% en ligne reste un point clé, le choix du package tarifaire. Hein. Vous savez, c'est un peu comme un abonnement à la de téléphonie mobile ou un abonnement Internet.
La subscription, il ne faut pas se tromper sur les options.
Voilà, il ne faut pas se tromper sur le package. Bon, le package, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des forfaits tarifaires qui conviennent bien aux débutants, pour des petits ordres. Il y a des forfaits tarifaires qui conviennent bien aux investisseurs, je dirais, déjà plus aisés, pour des montants plus important. Il y a des packages tarifaires qui sont adaptés si vous faites quelques ordres par mois, d'autres si vous faites quelques ordres par jour. Donc il faut cette capacité en fait à vous projeter dans l'avenir. Il faut anticiper quel sera le montant moyen de vos ordres d'ici 1 ou 2 ans, l'encours moyen de votre PEA. Est-ce que vous allez travailler des titres en direct, des titres français, des titres européens ? Est-ce que vous allez investir donc par l'intermédiaire d'ETF, donc alors de fonds d'investissement? C'est autant de questions qui convient de se poser. C'est pas si simple, mais parce que ça va vous permettre en fait d'optimiser votre tarification, sachant bien sûr que lorsque vous ne ferez pas un ordre qui sera un peu dans le cœur de cible du package donc que vous avez souscrit, eh ben vous allez être pénalisé. Donc voilà, ça c'est un point très important, mais pas de panique. Hein, de toute façon, vous pourrez aussi changer de forfait tarifaire, mais simplement cela peut entraîner des coûts.
Voilà, quelques bons conseils pour mieux gérer ou mieux envisager votre plan d'épargne action. Merci Christian Fontaine, directeur délégué de la rédaction du Revenu. Merci à nos auditeurs et auditrices Mathieu, Guy, Michel et Jérémy qui vient nous écrire et qui nous dit qu'il faudrait prendre modèle sur ce qu'on fait au Canada avec le CELI, le compte épargne libre d'impôts. Vous connaissez Christian ?
Alors je ne connais pas ça. Je sais que la fiscalité au Canada est particulièrement légère, notamment il me semble qu'il n'y a pas de droit de donation ni de droit de succession. Par contre, je ne connaissais pas cette particularité pour la taxation des titres.
Merci Jérémy. On va regarder de plus près ce CELI et voir si il est si intéressant. Vous restez avec nous. On va finir cette émission en parlant d'investissement dans les coins. Les mêmes coins, vous savez, ces jetons qui eux aussi surfent sur les performances assez incroyables depuis quelques semaines. Décryptage avec Enzo Allo.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement dans des coins, des mêmes coins. On va parler franglais, pardon, pour les puristes qui nous suivent. Bonjour Enzo Allo.
Bonjour Lorraine.
Président de CryptoPatrimoine.fr. Certaines crypto-monnaies montrent des performances assez incroyables depuis quelques temps. Pour ceux et celles qui considèrent que les cryptos sont un actif à part entière, nous allons zoomer sur ce qu'on appelle les tokens, les coins, et en particulier les mêmes coins. Expliquez-nous, racontez-nous.
En fait, simplement, ce sont des tokens qui ont en fait pour fondation simplement comme origine, les mêmes d'Internet, et donc toutes ces communautés en ligne qui se sont, on va dire, déjà rassemblées à l'origine sur Internet avec des façons de penser communes ou simplement des images. Voilà, ça peut paraître un petit peu stupide. Généralement, plus ça l'est, plus ça marche. Et donc, on a donc cette nouvelle... Et c'est même maintenant un secteur, un sous-secteur hein, de la blockchain qui sont donc les mêmes coins. Et il y en a pour l'équivalent maintenant de pratiquement 60 milliards de dollars de capitalisation boursière.
60 milliards de capitalisation boursière. Vous avez quand même prononcé l'adjectif stupide.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez articuler une réflexion sur le ou les projets qu'il y a derrière certaines de ces cryptoactifs, certains de ces cryptoactifs, et pourquoi, bon, on en parle et c'est important selon vous.
Alors déjà peut-être pour dire quand je dis stupide, c'est pas péjoratif, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais c'est une manière un petit peu d'investir des puristes, on va dire, de cet écosystème qui à l'origine est un marché de particuliers qui ne se prend pas au sérieux. Mmh. C'est aussi un des socles de cette base, contrairement à la finance traditionnelle qui est très sérieuse. Et donc, bah, pour continuer sur un peu l'idée, on peut être très sérieux dans la bêtise. Et donc, bah, prendre que cette blague ait pris une proportion un petit peu mondiale, avec Dogecoin typiquement, qui est la première crypto-monnaie à être apparue en 2013. Qui maintenant...
Dogecoin, c'est avec un chien dessus, mais attention, c'est pas la seule avec un chien.
Et non, il y a le Shiba Inu. Alors Dogecoin, elle, c'est un dérivé de Bitcoin qui a été développé à partir du code originel du Bitcoin. Shiba Inu, lui, a été développé sur Ethereum. Et pour la petite histoire, bah, en fait, il y a à sa création pratiquement un quart de l'offre en circulation qui a été brûlée par Vitalik Buterin. Donc, ce qui crée, en fin de compte, chacun de ces mêmes ont une petite histoire derrière eux.
Rappelez-nous qui est Vitalik Buterin.
Alors, Vitalik Buterin, c'est le créateur, pardon, de Ethereum. Enfin, un des créateurs.
Voilà, créé, puis brûlé. Bon, on le voit, il y a un petit peu d'originalité dans la pensée financière de ces coins. J'ai moi-même du mal à articuler une question... bien pesé. Vous nous avez rappelé les encours dont on parle, hein, les montants. Est-ce que c'est une mode ? Est-ce que ce sont des réels supports d'investissement ?
Non. Alors, je le dis en étant professionnel, alors même si au niveau personnel, j'en ai en portefeuille, parce que je pense avoir appartenu à un moment à cette communauté, mais c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de projet utilitaire derrière. Très clairement, il faut être assez clair là-dessus. C'est vraiment un moyen de rassembler différentes communautés d'Internet. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça, en réalité. Et en fait, en tant qu'investisseur, on va parier un petit peu sur la cupidité et, on va dire, la stupidité un petit peu de cet écosystème en ne se prenant pas au sérieux et en se disant, bah, en fait, allez, je mets 50 euros, je mets 100 euros là-dedans pour la blague. Et en fait, à une échelle mondiale, bah, en fait, ça en devient justement des milliards.
Les plus grosses market capitalisation, ce sont le Dogecoin, ce sont le Shiba Inu, mais on parle aussi de Pepecoin. Pour ceux qui nous suivent en image, est-ce que c'est une grenouille ? Est-ce que c'est un cornichon ? Je ne sais pas. C'est un individu vert avec une casquette rouge.
Oui.
Racontez-nous l'histoire de Pepecoin.
Alors, Pepecoin, c'est une histoire assez rocambolesque qui, à l'origine, a été créée par un dessinateur qui s'appelle Matt Fury dans les années 2005, qui est un livre pour enfants, qui, au fil du temps, a été repris. Alors voilà, cette petite grenouille qui a une air un petit peu parfois triste, un petit peu narquois, qui a beaucoup plu à des communautés internet qui l'ont autant et à tel point détourné qu'elle est aujourd'hui listée dans la, pardonnez-moi, j'ai oublié le nom, un petit peu les listes ostentatoires américaines, donc c'est la DFA, je ne sais plus.
L'Anti-Defamation League.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est ? Racontez-nous.
Et ben en fait, c'est tout simplement les sigles qui sont, on va dire, bannis, comme par exemple la croix gammée. Donc en fait, Pépé, effectivement, au même statut. Alors, parce que, on va dire que c'est une communauté qui, dans ses extrêmes, malheureusement, a soutenu en grande partie Trump et a joué pour son élection présidentielle. Il y a énormément de choses qui se passent pour des communautés Internet qui... ces vices, entre guillemets, dans l'ombre. On est vraiment dans le côté extrême d'Internet et qui, par le fait de poster énormément de messages, parfois un petit peu décriés sur Internet, à force de les voir, on s'habitue à voir ces images, parfois, qui peuvent être malheureusement racistes, ou ce genre de choses. Mais en fait, à force d'inonder les réseaux sociaux de ce genre d'images, on normalise un petit peu tout ça. Et ça lui a valu d'être donc banni au titre de la croix gammée, malheureusement. Il y a eu des choses qui ont été... faites, on va dire, de manière tout à fait... c'est-à-dire que, par exemple, ça a été aussi utilisé pour lever des fonds à Singapour. C'est-à-dire que c'est vraiment une minorité de cet écosystème qui a malheureusement exploité ça à mauvais escient. Voilà, donc c'est... Et la plupart des gens, je pense, investissent dans PP sans savoir exactement ce qui s'est passé derrière tout ça. Mais c'est, je pense, la plus grosse des communautés sur Internet aujourd'hui.
Voilà, on parle de communautés financières, de communautés Internet qui vivent un petit peu en autonomie, avec des codes qui parfois se popularisent, se démocratisent, sans qu'on se rende compte forcément de toute la culture derrière qu'il y a. Ouais. Amaury de Tonquédec nous a rejoint. Bonjour Amaury.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Vous êtes notre monsieur crypto. Votre regard sur ces memecoins et peut-être sur les performances qu'elles affichent depuis quelques semaines, indexées, j'ai envie de dire, sur les performances du Bitcoin.
Bah, c'est vrai
dans le sillage des performances du Bitcoin.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est des cryptos, on en parlait avec Enzo juste avant de rentrer en plateau. C'est vrai que c'est des cryptos extrêmement spéculatives. Alors bon, tout investissement est spéculatif, mais c'est vrai que c'est des cryptos, pour la plupart d'entre elles, il n'y a pas réellement de projet derrière, c'est plus une hype. Où là on va faire un pari, voilà, c'est un peu du casino, quand on va dire tiens, la petite tête de chien, la petite tête de grenouille, la tête de sanglier, ce que vous voulez, eh ben on pense que ça va peut-être décoller et derrière on regarde pas forcément les fondamentaux et effectivement on peut avoir des performances assez incroyables avec ces mêmes coins hein. On peut avoir des plus, je sais pas Enzo,
justement tout à l'heure. Shiba Inu sur 4 ans c'est plus de 2 millions de performances et sur un mois c'est 200% de performance. Dogecoin depuis 2013 32 000% de performance avec sur le mois dernier 112% de performance. EPP c'est 14 000% depuis mai 2023 avec sur le dernier mois 487% de performance.
Voilà, c'est peut-être réservé pour le haut de votre pyramide patrimoniale. Vous avez un petit peu de cash, un peu de liquidité et vous avez envie de prendre du risque. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces cryptos, ces meme coins qui sont un domaine d'investissement pour tous ceux et celles qui pensent que les cryptos sont un actif, sont des actifs. Merci beaucoup Enzo Allo, président de CryptoPatrimoine.fr. On peut bien sûr continuer à se documenter sur tous les sujets crypto, en plus de regarder ou d'écouter tous les jours Amaury de Tonquédec dans BFM Crypto, le club, à 15h, 21h30 et puis n'importe quelle heure en podcast. Le programme de l'émission du jour, Amaury.
Eh ben, les cryptos, on peut y investir, mais on peut aussi y travailler. Donc, on va parler des métiers de la blockchain, du Web3, avec le fondateur d'une école de la blockchain. Et on réagira aussi à la déclaration de la première ministre de l'Islande qui attaque le Bitcoin et le mining, alors que pourtant, c'est un pays dans lequel il y en a beaucoup. On verra ça tout à l'heure, à 15h.
D'ici là, dans 5 minutes, Sandra Gandouin prend les manettes avec vous. Bonjour Sandra.
Bonjour Lorraine.
Le programme de l'émission du jour.
On va parler de comment former ses managers, de comment recruter grâce à l'IA, d'économie circulaire ou encore de rupture conventionnelle. Tous les problèmes que vous rencontrez en tant que patron indépendant salarié dans la vie en entreprise, eh bien vous nous posez vos questions très, très simplement et nos experts y répondent pendant toute une heure dans un instant. Experts juridiques, experts de recrutement, décarbonation, tous les sujets sont abordés. Vous nous écrivez à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr et puis en live aussi sur les réseaux sociaux.
Voilà, c'est la fin de Tout pour Investir. Merci à toutes et à tous pour vos messages. Merci à toute l'équipe pour la préparation. Si vous avez attrapé l'émission en cours de route ou vous voulez réécouter nos experts, par exemple Enzo Allo sur ces mêmes coins, pas de panique. Toutes les séquences sont à retrouver en podcast et en replay sur le site ou l'application BFM Business d'ici quelques minutes. Demain, nous serons au rendez-vous dès 10h. On parlera d'un sujet géopolitique, investissement dans le pétrole et l'uranium. On fera aussi un topo sur les matières premières, argent, cuivre, mais aussi carbonate de lithium. Ça vous concerne en tant qu'investisseur. Et on réfléchira à comment investir dans la souveraineté européenne. Où mettre son argent? Pourquoi envisager la souveraineté européenne comme un endroit d'investissement? C'est le programme de Tout pour Investir. Demain, on se quitte avec le Bitcoin qui se traite autour de 70 968 points. Vous le voyez, largement sorti de sa zone de correction, le Bitcoin à l'assaut peut-être des 71 ou 72 000 dollars dans les prochaines heures. À demain!
Tout pour Investir sur BFM Business.